Bonjour et bienvenue, nous sommes le 3 février 2026 et c'est le Safer Internet Day, la journée mondiale pour un Internet plus sûr.
Bonjour.
Et pour l'occasion, on voulait se pencher sur une initiative qui nous vient de l'Académie de la Martinique et qui a vraiment retenu notre attention.
Oui, ce n'est pas, disons, la énième campagne de sensibilisation un peu classique, mais un concours avec un titre, je trouve, assez audacieux, « Se libérer des réseaux sociaux ». Le verbe « se libérer » frappe tout de suite, c'est fort.
Oui, on ne dit pas « se protéger d'eux » ou « arrêter ».
Exactement. Il y a une promesse d'action, d'autonomie. Se protéger, ça implique une menace extérieure. On est sur la défensive. Arrêter, ça sonne un peu comme une punition, une privation.
C'est vrai.
Alors que se libérer, ça suggère une démarche qui vient de soi, une reprise de contrôle. C'est une nuance qui, en fait, change toute la perspective. Ça place l'élève en position de pouvoir, pas de victime.
Et ça colle parfaitement avec le thème de l'année qui est « Les écrans et toi ». Comment ça va? On est dans le bilan, pas dans le jugement.
C'est ça, on interroge une relation.
Voilà. Alors, décortiquons ensemble cette initiative. Au-delà du titre, quels sont les objectifs précis? Comment est-ce que c'est organisé concrètement pour les élèves, pour les profs? Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit sur les nouvelles approches pour éduquer au numérique aujourd'hui?
Bonne question. Commençons par les objectifs, si vous voulez bien. J'ai la liste sous les yeux. Il y en a quatre. Le premier, assez classique, amener les élèves à interroger leurs propres pratiques et à développer leur esprit critique. La base, on va dire.
La base. C'est le deuxième qui, pour moi, change vraiment la donne. La finalité, ce n'est pas de faire une rédaction qui va finir dans un classeur. Non, il s'agit de créer, tous ensemble, un guide pratique.
Pour d'autres jeunes.
Exactement. Et ça, c'est puissant.
Ah mais c'est un levier psychologique énorme. On passe d'un exercice scolaire un peu imposé à une mission.
Une mission de service public entre pairs.
C'est tout à fait ça.
Franchement, un conseil sur la gestion du temps d'écran, il aura beaucoup plus d'impact s'il vient d'un autre ado de 14 ans qui vit les mêmes choses, plutôt que d'un adulte qui, à leurs yeux, il peut pas comprendre.
Bien sûr.
En faisant des élèves les créateurs du guide, on leur donne une légitimité, une responsabilité. Et ça, c'est un moteur bien plus fort que la simple recherche d'une bonne note.
On transforme le consommateur de contenu, qui est parfois un peu passif, en architecte de solutions pour sa propre communauté. C'est vraiment malin.
Absolument.
Mais là où le projet devient vraiment intéressant, et même un peu contre-intuitif, c'est avec le troisième objectif. Pour réfléchir à comment se libérer des réseaux sociaux, on leur propose d'utiliser une intelligence artificielle générative. Alors là...
C'est pas un paradoxe total.
On combat le feu par le feu, en quelque sorte.
C'est une décision courageuse. Et c'est peut-être l'aspect le plus novateur du projet. La plupart des institutions, aujourd'hui, sont encore un peu en panique face à l'IA. Elles oscillent entre l'interdire et une tolérance un peu gênée.
Oui, on ne sait pas trop quoi en faire.
Ici, ils font le pari inverse. Ils partent du principe que le meilleur moyen de démystifier et de maîtriser un outil aussi puissant, ce n'est pas de le cacher, c'est de l'utiliser, activement, en classe, mais dans un cadre défini.
Justement, ce cadre, les documents insistent beaucoup là-dessus. L'usage doit être, je cite, « encadré, raisonné et transparent ». Bon, entre nous, est-ce que c'est vraiment réaliste? Demander à des ados d'être transparents avec un outil qui est par nature une boîte noire.
C'est le cœur du défi, vous avez raison. Le but, ce n'est probablement pas d'atteindre une transparence technique, ce serait impossible. L'idée, c'est d'instaurer une transparence, disons, d'intention.
D'intention, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que l'élève doit être capable d'expliquer sa démarche. Voilà, j'ai utilisé l'IA pour brainstormer des idées de chapitres, puis je lui ai demandé de reformuler ce paragraphe pour qu'il soit plus direct. Voici les prompts que j'ai utilisés.
Ah, d'accord, on documente le processus.
Exactement. La compétence qu'on évalue, c'est pas le code, c'est l'honnêteté intellectuelle. La capacité à expliquer son travail avec ce nouvel assistant. Et ça, en fait, c'est la citoyenneté numérique en pratique. C'est d'ailleurs le quatrième et dernier objectif.
Une vision très ambitieuse, c'est certain. Mais bon, une vision ambitieuse sur le papier, ça peut vite devenir un casse-tête sur le terrain. Alors, concrètement, comment on organise un projet comme ça?
La logistique, oui. Ce qui m'a frappé, c'est le choix des classes. Quatrième, troisième et troisième prépa métier. On est en plein dans l'âge où l'identité numérique se construit, où la pression des pairs sur les réseaux est maximale. C'est pas un hasard, j'imagine.
Absolument pas. C'est l'âge charnière par excellence.
Pourquoi ?
Avant, vers 11-12 ans, l'usage est souvent encore très contrôlé par les parents. Et après, au lycée, les habitudes sont déjà très ancrées, c'est plus difficile de les faire bouger.
D'accord.
Alors qu'au collège, entre 13 et 15 ans, on est au moment le plus stratégique. Le smartphone devient un objet personnel, on crée ses premiers comptes privés, la frontière entre le réel et le virtuel devient floue.
C'est là qu'il faut agir. C'est là qu'on peut encore instiller des réflexes sains avant que les automatismes ne s'installent. Je vois. Le ciblage des élèves est donc stratégique, mais quid des enseignants? On sait qu'ils sont souvent débordés. Quand on leur présente un nouveau projet, même un projet passionnant, la première question, c'est souvent « Et je fais ça quand? Oui? Encore un truc en plus? »
Voilà. Et puis, tous les profs ne sont pas des experts du numérique. Comment le projet gère cet obstacle?
Et c'est souvent là que ça coince. Mais sur ce point, le projet semble très bien pensé. Les sources parlent de kits pédagogiques clés en main fournis par la DRAN, la délégation régionale au numérique éducatif.
Des kits clés en main, oui. Et il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces kits. On ne peut pas juste envoyer un mail à tous les profs en disant « Participez à notre super concours ». La réaction de beaucoup serait, comme vous le dites, j'ai pas le temps. Et ces kits, ce ne sont pas juste des modes d'emploi, si j'ai bien compris. Le document dit que c'est une accroche pédagogique idéale.
C'est ça. Le kit, ça peut être une petite vidéo choc, des stats surprenantes, un cas pratique de cyberharcèlement anonymisé. Des choses conçues pour être utilisées en une heure, sans grosse préparation, et pour lancer le débat en classe.
C'est une porte d'entrée. Exactement. Du coup, le concours n'arrive pas de nulle part. Il est présenté comme la continuité naturelle de ces ateliers. Ça crée un parcours logique. On commence par une prise de conscience guidée et ensuite, on offre un moyen de transformer ça en une création. On lève la barrière du par où je commence. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est ouvert à toutes les disciplines. Ce n'est pas que pour le prof de techno ou le prof doc.
Oui, et ça montre qu'on a compris que le numérique n'est pas une matière à part. Ça touche à tout. Un prof d'art plastique peut bosser sur le design du guide.
Un prof d'histoire géo sur l'impact sur la démocratie. Un prof de SVT sur les mécanismes de l'addiction, la dopamine. En décloisonnant, on dit que l'éducation aux médias, c'est l'affaire de tous. Et on multiplie les chances qu'un prof se dise « Ah, tiens, ça, je peux le faire ». Donc, si je résume, un projet malin dans ses objectifs, stratégique dans son ciblage et bienveillant dans son accompagnement des équipes. Mais il y a un autre élément, une connexion que j'ai trouvée dans les documents, qui change tout.
Ah.
Ce n'est pas juste un petit concours pour faire joli. Il est directement connecté au programme national de lutte contre le harcèlement à l'école, le fameux programme PHR. Concrètement, qu'est-ce que ça change de l'ancrer dans un programme national aussi important?
Ah, mais stratégiquement, c'est un coup de maître.
Carrément.
Oui. Le programme phare, il est obligatoire dans tous les établissements depuis la rentrée 2023. En liant le concours à phare, on le fait passer du statut de projet sympa et optionnel à celui d'outil concret pour répondre à une obligation nationale.
Je vois. Pour un chef d'établissement, ça prend une autre dimension.
Exactement. Ce n'est plus une initiative parmi d'autres. C'est une manière pertinente et innovante d'atteindre des objectifs fixés par le ministère. Ça lui donne un poids, une légitimité et potentiellement un accès à des ressources.
Et il y a même une petite incitation pour l'établissement. Les documents précisent que participer au concours contribue à la labellisation de votre établissement. C'est une façon de motiver aussi les directions.
Bien sûr, cette labellisation, c'est pas juste un autocollant sur la porte, c'est un marqueur de qualité, c'est un signal envoyé aux parents que l'établissement prend ses questions au sérieux. Ça peut devenir un argument d'attractivité.
C'est vraiment penser à 360 degrés.
C'est ça, on motive les élèves par la création, on outille les enseignants pour leur faciliter la vie et on incite les directions en s'intégrant dans les priorités nationales. Tout s'emboîte parfaitement.
Quand on met tous ces éléments bout à bout, l'image qui se dessine est assez impressionnante, je trouve. On part d'une idée simple, un concours, mais elle est ancrée dans une approche positive, se libérer.
Elle vise un objectif utile, le guide.
Elle intègre audacieusement l'IA, elle soutient les profs et elle s'inscrit parfaitement dans le cadre institutionnel.
Et si on prend encore un peu de recul, l'aspect le plus fondamental, c'est peut-être la posture dans laquelle ce projet place les élèves. Pendant des années, l'éducation en numérique, c'était quoi, Evelyne? Des listes d'interdits? Des conseils descendants?
Oui, un discours un peu moralisateur parfois.
On les a traités soit comme des victimes potentielles à protéger, soit comme des consommateurs un peu naïfs à raisonner. Cette initiative, elle change complètement de paradigme.
Comment ça?
En leur demandant de créer eux-mêmes le guide, de définir eux-mêmes les règles d'un usage plus sain, on leur confère une expertise, un pouvoir d'agir.
On leur fait confiance. On ne leur dit pas « voici ce qu'il faut faire ». On leur demande « aidez-nous à définir
ensemble comment mieux vivre avec ces outils. On les transforme d'objets de l'éducation en sujets et acteurs de cette éducation. Et ça, au fond, c'est le but ultime de toute démarche éducative.
C'est une excellente synthèse. Ce concours lancé en Martinique est bien plus qu'une simple bonne idée. C'est un véritable modèle d'action éducative. Intelligente, intégrée, responsabilisante. Ça pourrait, et ça devrait sans doute, inspirer bien au-delà de l'académie.
Et pour finir, ça soulève une question qui, je pense, va devenir centrale. Ce projet propose d'analyser une technologie qui a envahi nos vies, les réseaux sociaux, en utilisant une autre technologie très puissante, l'IA.
Oui. La question de fond, c'est est-ce que l'éducation numérique de demain, ça consistera toujours à apprendre à maîtriser une technologie en s'appuyant sur la suivante ?
C'est une bonne question.
Et si c'est le cas, comment on s'assure que l'outil qu'on utilise pour la critique ne devienne pas, à son tour, l'objet d'une nouvelle aliénation, d'une nouvelle dépendance invisible ? C'est tout le défi de cet encadrement raisonné et transparent que le concours met en avant. Et c'est une ligne de crête sur laquelle il va falloir apprendre à marcher.